Vous êtes à l'écoute de Radium dans l'émission La boîte à musée proposée par RL Pinel et Thierry Tucriel. Donc on va continuer notre descente, je vais vous amener jusqu'à la turbine, vous allez pouvoir rentrer dans l'escargot et après on terminera avec la grande étape du grand c'est le petit passage qui contourne la turbine, juste ici. C'est ce petit chemin que tu vas emprunter tout de suite. Allez, je vous y amène.
Youpi.
Bonjour, bonjour à tous. Nous nous trouvons au musée du Sceau du Tarn, à Saint-Juéry, petite ville sur les bords du Tarn à côté d'Albi. Ce musée, beaucoup d'entre vous le connaissent certainement déjà. Il se situe dans les anciens bâtiments d'une usine hydroélectrique et retrace l'histoire de la fabrication d'acier et des outils de taille en dorée du Sceau du Tarn. Ce sont d'anciens ouvriers de l'usine qui sont à l'initiative de la création de ce musée. Au cours de cette émission, vous allez entendre l'un des guides du musée animant l'une de ses visites, ainsi que le témoignage de Monsieur René Reynaud, ancien ouvrier de l'usine et l'un des fondateurs du musée.
Je travaillais au LIM comme ajusteur, au service des LIM. J'étais ajusteur, je mettais au point les machines. Les machines qui tombaient un peu en panne, réparées. Et puis je suis parti armé, et au retour, je suis entré en mécanique générale, au montage des machines-outils. Albi d'ailleurs, elle était ici, puis on était déménagé à Albi. Ils avaient, Albi, il y avait une fonderie qui dépendait du Sceau du Tarn. Ils avaient des ateliers là-bas, juste à l'entrée d'Albi. J'étais là-bas. Mais en fait, c'est moi qui ai démissionné, qui suis parti, et on ne m'a pas foutu hors. Hein. Après, si. Après, malheureusement, quand tout s'est cassé la figure, on n'était pas là. Ça a été dispersé, ça a été dispatché. Mais à l'époque, ça tournait rond, il n'y avait aucun problème, aucun. C'était encore l'époque où on pouvait aller trouver son contremaître et de là son ingénieur en disant dites-moi, il me faudrait peut-être allonger un peu la paye ou autre, ça se discutait. Ça se discutait. Et c'était peut-être encore des moments où si on était bien vu, on pouvait être vu boulot. Si on était assez bien vu au point de boulot, on pouvait se permettre de dire oh, mais tant pis, je vais voir ailleurs. Et alors quelquefois on dit attends, on va voir ça. Maintenant, si tu te sens pas trop, dirais vas-y, va voir ailleurs. Moi je m'en fous, j'en trouverai entre demain. Alors, c'est pour ça qu'encore, on n'avait pas une vie trop dure par rapport à ça. Hein. La vie était dure aussi, le boulot était dur, le boulot solitaire.
Mais dans l'usine, c'était quelque chose.
Il y avait des services que c'était. Si, c'était très, très, très dur. Je dirais presque que les limes, c'était pas le plus dur, mais ceux qui travaillaient au Martinet, c'était presque du Zola, sans mentir. Ouais, c'était sur de la terre battue, au Bossier, le bouillet infernal, et même aux limes, dans les ateliers de limes, ou à la forge des limes, là où ils forgeaient les limes. Les gars, c'était du coton pour les oreilles qu'ils avaient, puisqu'à l'époque, il n'y avait rien pour protéger. Ils mettaient du coton dans les oreilles parce que c'était un bruit infernal et c'était la terre battue. C'était pas du Zola, mais ça y ressemblait un peu à ce qui racontait Zola. Quoi. L'atelier de fonderie, là-haut, là, il y avait des boulots qui n'étaient pas tristes. Hein. Et puis ça s'est amélioré quand même au fil des ans, un peu. Mais c'est vrai que peut-être que le tort, c'est qu'ils ne se sont pas assez modernisés. Et c'est ça qui a fait qu'ils ont coulé.
C'est dans les.
La modernisation à tout point de vue. Et c'est ça qui a fait que petit à petit ça sombre. Mmh. Parce que la qualité y était. D'ailleurs, c'est pas moi qui avais craché à la soupe.
Donc, bonjour tout le monde. Donc, c'est moi qui vais m'occuper de la visite guidée cet après-midi. Bienvenue au musée du Sceau du Tarn. Je vais avoir pour mission de vous expliquer un petit peu ce qui se faisait ici. Donc, vous êtes dans une ancienne usine métallurgique, hein, une ancienne usine où on fabriquait de l'acier, qui était en fait notre matière première. Parce qu'après, on fabriquait des outils. Donc, c'est plutôt des outils de taille en dorée que l'on va travailler ici. L'aiguiserie permettait de stocker les outils que l'on avait fabriqués, puisque c'était là encore qu'on finissait l'outil en l'aiguisant, tout simplement. Et au début, l'usine du Sceau du Tarn, c'est uniquement ça. Il n'y a rien d'autre sur le site. Il y a des moulins, ceci dit, qui sont présents sur les rives du Tarn. Garrigou et Massenet, qui sont les deux industriels toulousains à l'origine de l'usine du Saut du Tarn, avaient observé la présence de ces moulins. Alors, qui dit moulin dit roue qui tourne grâce à l'eau, et qui dit eau dit force hydraulique, donc forcément ça peut être intéressant pour de multiples choses. Alors, ils vont décider d'installer une usine ici sur les rives de Saint-Jury, justement parce qu'il y a une chute d'eau d'une vingtaine de mètres sur le saut de Sabot, donc on le voit ici sur la petite maquette. Et également, en étant installé à Saint-Jury, on n'est pas très loin des mines de Carmaux et des mines du Freys, où on peut du coup s'approvisionner très facilement en charbon et en minerai de fer. Donc ce sont là les deux matières premières qui sont utilisées à la fabrication de l'acier dans les hauts fourneaux. Et ensuite, on parlera des fours électriques, qui est donc un procédé un petit peu plus moderne.
Alors, cette machine, c'est le haut fourneau. Il a été installé au bout du Pont d'Arthès en 1882. Et grâce à lui, on va pouvoir produire donc de la fonte. Ensuite, on affinera dans les ateliers d'affinage pour obtenir de l'acier. Dans le corps de chauffe, on a une température de 2000 degrés. Donc à cette température, nos matières premières vont fondre, vont se lier. Et on va obtenir donc ce qu'on appelle de la fonte. On va couler ensuite tout le contenu de notre corps de chauffe par un trou de coulée à l'avant de la machine. On va tracer donc des rigoles dans le sol directement. Et donc on va couler tout ça, ça va se mouler. On va donc fabriquer des gueuses de fonte qui seront laissées ensuite à refroidir. Et une fois froides, on les sortira pour les envoyer à l'atelier d'affinage. Dans ces ateliers, je vous le disais tout à l'heure, on va fabriquer de l'acier. Cette fonte va être refondue une nouvelle fois. On va brasser tout ça avec de l'oxygène. Le carbone qui s'est crissé va s'accrocher à l'oxygène qu'on écrit O2. Et on obtient donc du CO2. Le CO2 va s'évaporer et va donc laisser... que la matière qui nous intéresse finalement, l'acier. Maintenant, sachez que le musée a été créé par des anciens ouvriers de l'usine, qui sont aujourd'hui appelés des bénévoles, qui ont entre 75 ans et 85 ans, les plus âgés.
Pas sauver le Saut du Tarn, ça c'est un mot qui est stupide. Mais essayer de sauver la mémoire un peu, conserver quelque chose qui avait fait vivre toute une région. Et au début, quand même, on a senti qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient avec nous. Hein. Il y en avait non, ça existe partout, ça. Hein. Bon, mais c'est vrai que les gens disent, oui, parce que tout s'effondre, hein. Et ça, il faut que mon petit-fils, mon fils, sache ce qui s'est passé, comment les gens l'ont bavé. C'est un peu ça, c'était un peu idéaliste, c'était un peu... pas utopique. Si, les premiers mois c'était utopique parce qu'on n'avait pas un radis. Les premiers mois. Après, avant, quand il y a eu un peu d'argent, on peut faire déjà quelques trucs. Et puis ça a pris la... Et puis c'est pas toujours facile. On avait ce bâtiment qui était immense. Et alors, il était vide. Il faut y mettre des trucs. Alors, il y avait des choses à garder. Et puis il y en avait à amener d'ailleurs. Bon, après, on a eu la peine de pouvoir s'approprier cette maquette en bas que vous avez vue. Si
oui, elle fonctionne.
Bon. Et ça, ça a été du boulot, ça a été, on a des souvenirs inoubliables là-dessus, heureusement. Quoi. Voilà, ça c'est les gros travaux du départ. Hein. Les compresseurs qu'il a fallu récupérer, le martinet qu'il a fallu récupérer, le martinet, c'est le dernier qui est resté. Il y en avait 22, il ne restait plus que celui-là. Il a fallu faire vite pour le sauver, sinon c'était foutu.
En 1824, au moment de l'ouverture de l'usine du Saut du Tarn, on a commencé la construction de cette usine par un bâtiment qu'on appelait la halle au martinet. Donc sur cette petite maquette, un martinet au centre, notre martinetteur en train de forger, un autre ouvrier, donc le tire-pelle ou le tire-vanne, prêt à tirer sur sa petite corde pour actionner le martinet. D'autres ouvriers sont représentés ici. On a un ouvrier appelé le chauffeur qui a une quinzaine d'années et qui lui est chargé de préchauffer la barre d'acier avant de la transmettre au martinetteur. Un autre ouvrier est chargé de forger le manche de l'outil, l'endroit où on viendra encastrer le manche en bois. Deux ouvriers là-bas qui travaillent sur la côte, donc cette partie un petit peu arrondie que compose la four. On l'a sur le mur, vous avez quelques outils qui sont présentés, on le voit bien, cette partie un petit peu arrondie. Et on a encore un ouvrier qui, lui, est appelé le meuleur aux bottes. Son boulot, c'est tout simplement d'aiguiser les outils. Et on l'appelle le meuleur aux bottes parce qu'il a des caissons de bois qui enrobent ses genoux. En fait, il est appuyé contre une planche, les genoux légèrement fléchis. Et quand il pousse avec les pieds, il entraîne la rotation de la meule. C'est un ouvrier qui a des conditions de travail assez compliquées parce que pour éviter un échauffement de l'outil contre la meule, on est obligé d'arroser l'installation et finalement l'ouvrier qui se trouve derrière en prend tout autant que
que l'appareil. Donc finalement, il travaille toute la journée avec les genoux mouillés parce qu'il a au fond des caissons de bois un petit peu de foin pour amortir le choc un peu brutal du bois contre la chair. Et finalement, en travaillant dans l'humidité comme ça, même si ce sont des ouvriers très jeunes, ce sont des ouvriers qui souffrent de rhumatisme comme des personnes âgées. À ça vient s'ajouter le bruit de l'atelier puisque le martinet est un engin qui fait beaucoup de bruit. De quelques kilos, le véritable martinet, c'est celui qui est juste à côté, qui pèse 20 tonnes. Dans la halle au martinet, c'est pas un martinet qui fonctionne, c'est 22. Donc vous imaginez un petit peu l'ambiance qui demeure dans cette grande halle. Les ouvriers finissaient sourds très rapidement. Certains essayaient de mettre de la mie de pain au fond des oreilles pour limiter les nuisances sonores. Malheureusement, ça ne fonctionnait pas. Le pain, il valait mieux manger que mettre au fond des oreilles. Et finalement, les ouvriers acceptaient leurs conditions de travail et finissaient sourds très rapidement.
Oui, parce que le solitaire avait une politique de formation de ses propres apprentis sur 3 ans. C'était des CAP de 3 ans. C'était des vrais CAP. C'est pas méchant ce que je dis, mais c'était des vrais CAP. 3 ans d'études avant de passer un CAP. Et comme ils avaient tout corps de métier, ils formaient des apprentis électriciens, ajusteurs, aléseurs, menuisiers, ébénistes. Et alors c'était l'inverse maintenant. C'est-à-dire que maintenant, quand un grand apprenti chez un artisan, il va à la suite du coin, comme on dit, pour aller au cours. Nous, non, c'est les profs qui venaient ici. Il y avait les salles de cours ici au solitaire, et il y avait les propres profs qui venaient. Nous, on restait dans le solitaire. Et on avait des cours de dessin industriel, des cours de maths. Et les gens qui sortaient d'ici étaient assez cotés. Parce que je crois qu'il y a été coté surtout sur le point manuel. On était sûrement meilleur que quelqu'un qui était à l'école, et c'est le contraire. Peut-être que dans des problèmes de maths ou autres, on était un peu plus faible. Mais sur un plan manuel, sur le tas, on était meilleur. C'était indiscutable. Et puis le gros avantage aussi, même si ce n'était pas comme maintenant, c'est qu'on nous gardait après. La place était sûre. Moi, je suis parti à l'armée en Algérie, comme beaucoup. Quand je suis revenu, je suis rentré au solitaire. Même retour, c'était sûr qu'on ne me dirait pas, non, c'est fini. Hein. On t'a remplacé. Le solitaire gardait ses gars.
Donc bienvenue dans l'atelier du piqueur de râpe. Je vais vous montrer un petit peu comment on fabriquait les limes et les râpes à la main. On fabriquait plus de 5000 modèles différents. Moi, je vais me consacrer à la râpe à bois. C'est déjà pas mal. Vous verrez la difficulté de la tâche, vous comprendrez dans quelques minutes. Mais avant de vous montrer un petit peu le geste qui était effectué, je vais d'abord vous montrer la différence entre une lime et une râpe. J'ai dans les mains une lime et une râpe de Maréchal Ferrand, donc un gros modèle. Vous avez ici la partie râpeuse, la partie de la râpe fabriquée à l'aide d'un grain d'orge qui est un poinçon à la forme biseautée. On va le placer sur les boches, hop, comme ceci. Un petit coup de marteau suffit pour graver l'acier, préalablement recuit. Un véritable piqueur de râpe pique 2000 à 6000 coups à l'heure. Bon, j'en suis loin, hein, je vous le dis tout de suite. Donc pour fabriquer une râpe, on pique toujours de la soie vers la partie haute de l'outil, donc de bas en haut, toujours de gauche à droite, en suivant un angle de 45 degrés pris à l'œil nu. On ne fait pas un traçage préalable pour respecter cet angle. Par contre, on est formé pendant 3 ans. Donc vous passez 3 ans durant lesquels vous allez piquer et recommencer votre outil jusqu'à ce que le geste soit automatique et que finalement vous deveniez une véritable machine humaine. Donc je vais vous montrer cependant le geste qui a été effectué. Je vous montrerai après le résultat désastreux quand même. Il vous sera permis de vous moquer, mais ça dure que 3 minutes, hein, les moqueries. Je tolère pas plus. Donc voilà le geste qui était répété tout au long de la journée pour couvrir plusieurs faces. Pardon. Alors pas là, parce que là c'est une râpe à bois. Sur la râpe du maréchal Ferrand, on est obligé de taper trois fois parce qu'on a une dent vraiment profonde. On est vraiment obligé d'aller chercher au fond de l'ébauche pour ressortir ce morceau d'acier. Là c'est simplement un coup sur chaque dent qui est fabriquée. Donc je décale le grain d'orge et à chaque fois je donne un petit coup de marteau donc, pour créer la petite esquille. Donc je vais vous faire repasser une ébauche que j'affectionne tout particulièrement parce que d'un côté il y a le travail de Monsieur Solaire qui est piqueur de râpe dans l'association et de l'autre côté vous avez le travail désastreux des guides du musée du Sceau du Tarn. Ça vous permettra de voir la différence entre un professionnel et quelqu'un qui fait ça dans quelques minutes en passant lors de certaines visites. Donc pas besoin de signifier qui a fait quoi, ça se voit, je peux vous l'assurer. Pourtant on s'applique, hein. On y met tout notre cœur, mais il n'y a rien à faire, le geste ne rentre pas.
C'est retrempé.
Et après, voilà, pour fixer les dents que l'on vient de fabriquer, on est obligé de passer par la trempe. Alors la trempe est une recette secrète qui est détenue par les forgerons en règle générale. Notre piqueur de râpe nous a révélé quelques éléments de sa trempe. On sait qu'il y a du cyanure dedans. Mais je pense que sa recette partira avec lui parce que c'est ce qui fait la qualité de l'outil. Donc s'il divulgue le contenu de sa trempe, finalement il donne son secret. Et il est vrai que les outils au Sceau du Tarn étaient très très renommés, très réputés, parce que les outils étaient de grande qualité grâce à sa trempe.
Bah, la trempe c'est de chauffer puis refroidir.
Pas seulement, c'est pas seulement qu'on ne détient pas. Alors je vais vous mettre un petit film, comme ça vous verrez M. Solaire travailler. Il vous présente la trempe, vous allez la voir. Bon, vous ne saurez pas exactement les éléments qui la composent, mais vous verrez au moins le geste effectué. Effectivement, on a un choc thermique qui est créé entre un plomb en ébullition et de l'eau salée, donc qui est relativement froide. Salée. Mais c'est ce choc thermique qui complète la trempe, mais à la base, la trempe, c'est un mystère. Alors, avant de passer à l'étape suivante, je vais vous faire quand même un petit topo sur les conditions de retraite au 19e siècle. C'est aujourd'hui plus ou moins un sujet d'actualité, mais vous verrez que malheureusement, à l'époque, c'était pire. Aujourd'hui, pour pouvoir bénéficier de la retraite, on n'a pas 36 solutions. Mais à l'époque, au 19e, c'était trois conditions qu'il fallait respecter scrupuleusement pour l'obtenir. La première condition à respecter, c'était de faire 60 ans de service à l'usine. On travaille donc pendant 60 années entières à l'usine. La deuxième condition, c'est de les faire sans absentéisme. Et la troisième condition, c'est d'aller à l'église tous les dimanches. Alors autant vous dire qu'il fallait surtout pas se faire remarquer dans un mouvement de grève ou un mouvement de mécontentement général. On se faisait tout petit, on était là pour travailler, point. Sur 2000 ouvriers qui travaillaient à l'usine du Sceau du Tarn, seulement 21 ont pu toucher la prime de retraite. Sur ces 21 sont inclus les accidentés du travail, des personnes qui n'ont jamais fait 60 ans de service sans être absentes. Donc, ayant réellement et scrupuleusement respecté les trois conditions pour obtenir cette prime de retraite, on peut l'affirmer, il n'y a pas eu un seul oublié. Le seul cadeau qui était fait aux ouvriers du Sceau du Tarn, c'était le cercueil. Malheureusement, voilà, le problème est là, l'espérance de vie de toute façon du Sceau du Tarn était bien inférieure à 60 ans. Donc on savait pertinemment que vous passeriez votre vie à l'usine. C'était un moyen comme un autre de vous donner l'ultime reconnaissance, de vous remercier pour vos services. Donc le cercueil était offert de manière systématique à tous les ouvriers. Ils étaient confectionnés dans un bâtiment qu'on appelait la charpente, dans lequel on fabriquait les manches en bois des outils. On avait un tout petit endroit de cet atelier qui était consacré à la fabrication des cercueils.
Il faut quand même noter que ces gens-là, ils étaient très nombreux à partager les mêmes conditions, ils l'acceptaient plus facilement.
Oui, oui. Et puis ils étaient contents de venir travailler, il y a ça aussi. Aujourd'hui, on n'a pas du tout la même philosophie. Aujourd'hui, on travaille dans un lieu, mais on peut très bien être amené à changer de métier au cours de notre carrière. À l'époque, vous travailliez à l'usine dès l'âge de 10 ans, et vous finissez votre carrière à l'usine. On ne se posait même pas la question. Alors après, il y avait ici dans la région pas 36 solutions. Soit on allait travailler à la mine, à Carnot, soit on venait au Sceau du Tarn, où il y avait aussi la viscose, mais réellement c'était les trois pôles d'activité qui tournaient ici à Saint-Joly, et qui, enfin, dans le coin, dans la région, qui faisaient vivre la région. Donc les ouvriers qui ont choisi le Sceau du Tarn par rapport au mine de Carnot, ont simplement une raison à donner, c'est du moins la raison que nous donnent nos bénévoles hein, aujourd'hui. Ce sont des personnes qui étaient contentes de voir le soleil se lever le matin et le soleil se coucher le soir. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas choisi la mine, parce qu'au fond du trou, ils avaient le sentiment que finalement, ils étaient en terrain vivant. Ici, au moins, ils se sentaient vivants.
Et qui est venu compléter un petit peu la production en électricité. Donc dans le premier hall du bâtiment, on avait trois dynamos. On en a retiré une pour laisser le bénéfice de l'eau aux deux autres qui étaient plus puissantes. On a eu d'autres centrales qui ont vu le jour sur le site. Je vous les présenterai sur la grande maquette dès qu'on y sera arrivé. Et on a aussi cet alternateur, mais qui, celui-ci, nous donne l'opportunité de descendre jusqu'à la turbine. Cachée, c'est pas pour rien, vous la verrez dans quelques instants. Donc on avait de l'eau à peu près jusqu'au niveau des gaines ici. L'eau prenait de la vitesse grâce à la pente en béton qui est aménagée donc juste sur ma gauche. Le plafond rabaissé contribuait à mettre sous pression cette eau pour qu'elle rentre plus violemment dans l'escargot. Et l'escargot, c'est le petit chemin qui contourne la turbine que vous allez pouvoir visiter.
Voilà, ça, on appelle l'escargot. Ça s'enroule autour de l'axe.
Voilà. Voilà. C'est quoi la graisse?
Alors cette association, c'est pour essayer de monter un musée, mais ça n'a pas démarré comme ça. Hein. C'était suite à un tirage d'un livre, La Fabrico, qui avait été édité. Ce petit truc là qui se présentait, j'y tiens, je vais m'y mettre pour voir. Hein. Voilà. Voilà, la réédition d'un livre, on fait une expo, allez. Alors on était une poignée, là on était 4 ou 5. Hein. Et après, on a laissé une réunion pour voir si on pouvait faire quelque chose de musée, une idée de musée. On pouvait faire un petit truc, quoi, un petit truc pour nous amuser, nous, presque, je veux dire. On pensait pas trop, même, on pensait pas trop aux visiteurs. Et puis, on se laisse gagner par le truc. On était jeunes, comme on avait dit. Ça nous arrivait de passer des journées entières ici. Nos femmes faisaient la bouffe, nous la portaient. Puis, on l'aurait commandé, on n'aurait pas fait, on aurait fait grève, évidemment. Mais on le faisait, on était vachement heureux. Mais après, tout. Puis, ça a bien marché quand même, on a suivi, mais. C'est bien arrivé où ça en est maintenant. Ça a suivi son chemin. Il a fallu le temps, mais on y est arrivé. Au début, c'est nous qui faisions les visites. Hein. Les premières visites étaient même gratuites. On ne savait pas quoi en faire. Hein. Et après, on a une personne qui est venue. Et puis ça s'est agrandi. Et donc on est arrivé là. Et c'est vrai qu'on en est tous contents. Quoi, ça. Même un peu orgueilleux, si on veut. On est contents de notre boulot. Le musée maintenant est paré, il est sauvé et c'est impeccable. Maintenant, c'est parce que si on n'est plus au point de gestionnaire, et la structure de gestion, il y a 4 employés, et nous on est là pour, je vous dis, pour donner un coup de main quand il faut en donner, et voilà. Mais on n'est plus gestionnaire de rien. Voilà.
Stéphanie Guiraud, chargée de communication.
Le musée donc, a été créé en 1995 et parle donc de l'histoire du Sceau du Tarn, qui était une usine métallurgique. Qui a été créé en 1824 et qui a fermé en 1983. Et donc le musée a été créé justement pour faire en sorte que les générations futures sachent ce qui s'était passé. Les gens venaient pour visiter le musée une fois qu'ils avaient vu le musée, les collections permanentes, les maquettes, le fourneau, le martinet, etc. Se disaient ben, on n'a plus à revenir au musée puisqu'on l'a déjà vu. Et nous, ce qu'on a voulu, c'est inciter les gens à revenir, à fidéliser le public, à démocratiser l'image du musée et de la culture. Et pour ça, on a décidé donc de faire des manifestations gratuites. Un lieu de vie, je persiste sur ce mot, mais c'est vraiment ce qu'on veut. C'est pas un lieu mort, c'est pas parce que le Sceau du Tarn n'existe plus puisque c'est un lieu poussiéreux. On n'est pas dans un musée poussiéreux, on est dans un musée dynamique qui va vers les gens, qui a une politique sociale. On travaille beaucoup avec le centre social, le CCAS. Enfin voilà, on va vers les gens. Nous avons un service éducatif qui est très développé avec à peu près 15 produits entre guillemets différents, donc des visites tout à fait classiques, des ateliers où les enfants vont fabriquer des piles, se déguiser en enfant du 19e siècle, jouer aux jeux du 19e siècle, des jeux visites où on a adapté par exemple le jeu de loi à la visite du musée, ou une enquête où le directeur du Sceau du Tarn a disparu, pour le retrouver. Et tant que la transmission de savoir et de mémoire est là, nous, c'est tout ce qu'on recherche.
Nous remercions chaleureusement de leur accueil le personnel et les bénévoles du musée du Sceau du Tarn. Pour les informations pratiques, le musée est ouvert du 1er avril au 15 novembre, tous les jours, de 14h à 18h, sauf le samedi. En juillet et en août, il ne ferme qu'à 19h. Nous vous invitons à consulter leur site internet sur www.musee-sceau-du-tarn.com où vous trouverez un grand nombre de photos tout à fait intéressantes. Vous pouvez également les joindre au 05 63 45 91 01 pour toute information. Nous vous informons que le musée organise régulièrement des manifestations culturelles gratuites ainsi que des expositions temporaires. Lors de votre visite, nous vous recommandons chaudement la visite guidée, fort bien construite et intéressante. Nous vous rappelons que cette émission est réécoutable et podcastable sur le site de Radium à l'émission La Boîte à Musée.
Ceux qui travaillent plutôt avec leurs os. Il y a ceux qui travaillent plutôt avec les mots. Il y a ceux qui se lèvent de plus en plus tôt. Ceux-là même n'ont jamais eu le pouvoir des mots. Il y a ceux qui potassent dans les mines de potasse. Il y a ceux qui potassent sans récolter le moindre sel. Il y a ceux qui engraissent les bêtes qu'on mène à l'abattoir. Il y a ceux qui engraissent sur le dos des noirs. Ceux qui disent que l'immigré pique le travail ordinaire. Celui qui pique toutes les races, c'est le vétérinaire. Le vétérinaire, le vétérinaire. Chaque jour suffit de sa peine, car chaque jour naît une autre flemme. Chaque jour suffit de sa peine, car chaque jour naît une autre flemme. Le travail. travail ordinaire, celui qui pique toutes les races, c'est le vétérinaire, le vétérinaire, le vétérinaire. À chaque jour suffit sa peine, car chaque jour renaît une autre flemme. À chaque jour suffit sa peine, car chaque jour renaît une autre flemme. À chaque jour suffit sa peine, car chaque jour renaît une autre flemme. À chaque jour suffit sa peine, car chaque jour renaît une autre flemme. À chaque jour suffit sa peine, car chaque jour